Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Nous sommes le 4 octobre, direction l'année 1958 et une vraie rupture fondamentale dans les institutions françaises. La France adopte la 5e République. François Vantôme explique les motifs qui ont conduit à ce changement majeur et décrit les transformations concrètes qu'elle entraîne.
Dans les années 50, la 4e République, fragile et épuisée par les crises à répétition, semble tenir debout sur un fil. On est en plein déchirement autour de l'Algérie, avec des gouvernements qui tombent aussi vite qu'ils se forment, et une impression durable que le système parlementaire ne peut plus suivre le rythme du pays. Dans ce contexte, des voix fortes, dont celle de Charles de Gaulle, s'en font entendre. Il faut non pas un simple changement de ministre, mais une refondation de l'État, une constitution qui donne à la France une direction claire et une capacité d'action suffisante pour affronter les tempêtes. C'est ainsi que, peu après l'appel de Gaulle à prendre la tête du gouvernement, se met en place une démarche nouvelle. Une équipe conduite par le juriste et homme politique Michel Debré travaille à un texte fondamental, une constitution qui ne serait pas seulement une liste de règles, mais un cadre vivant pour un pays en mouvement. L'objectif est audacieux, doter l'État d'un exécutif capable de décider rapidement, de porter une vision d'ensemble et de mettre fin à l'alternance interminable des ministres qui s'entre-déchirent sans que l'action ne porte vraiment ses fruits. Le texte prend peu à peu forme autour d'un équilibre inédit, un président doté de pouvoirs forts mais avec des garde-fous et des mécanismes de contrôle qui assurent que le dirigeant ne gouverne pas seul. Le pouvoir exécutif, incarné par le président et son gouvernement, coexiste avec un parlement bicaméral composé d'une assemblée nationale et d'un sénat qui peut, à sa manière, contester, proposer et voter les lois. Le président est choisi non pas par un vote simple du peuple, mais par un collège électoral et il peut nommer le premier ministre et les ministres, présider les conseils des ministres et intervenir dans les grandes orientations de l'action publique. En même temps, le Premier ministre et le gouvernement restent responsables devant l'Assemblée nationale. Si la majorité parlementaire le décide, le gouvernement peut être renversé par une motion de censure. Mais la nouvelle architecture ne se contente pas de régler des rapports entre exécutif et législatif. Elle institue aussi des protections et de leviers propres à l'État moderne. Le texte crée ce qu'on appellera plus tard le Conseil constitutionnel, une instance chargée de veiller à la conformité des lois avec la Constitution et de prévenir les dérives. Après des mois de débats, de compromis et d'épreuves de rédaction, le texte est soumis au peuple. Le 28 septembre 58, les Français sont appelés à se prononcer par référendum.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.
Le pays répond oui, et peu après la nouvelle constitution est promulguée le 4 octobre 1958. Cette date marque une rupture fondamentale. La France opte pour une cinquième république qui ne sera plus le produit de coalitions éphémères, mais l'expression d'un équilibre institutionnel renouvelé, pensé pour durer. Dans les années qui suivent, la Ve République met en place son fonctionnement. Le chef de l'État peut nommer le Premier ministre, diriger le gouvernement et diriger le pays dans les grandes directions de politique intérieure et extérieure. Le Parlement peut, par la voix de l'Assemblée nationale, demander des comptes au gouvernement et, si nécessaire, renverser l'exécutif par une motion de censure. Le président dispose aussi de prérogatives importantes dans les périodes de crise et la possibilité même, si elle reste exceptionnelle, d'intervenir pour maintenir l'unité de l'État. Les premières années de la Ve République confirment l'efficacité relative de ce cadre nouveau. Pour faire face à des défis majeurs, notamment la décolonisation et les guerres qui accompagnent ce processus. Le texte produit des effets durables, il stabilise la vie politique, donne à l'État une marge de manœuvre supérieure pour agir vite et parle d'un destin commun plus clairement que par le passé. Toutefois, il révèle aussi les tensions propres à ce genre d'équilibre, lorsque le président et la majorité parlementaire viennent de préférences différentes. Le pays peut connaître des périodes de cohabitation où l'exécutif et le législatif appartiennent à des camps opposés. Au fil des décennies, la Constitution ne reste pas figée, elle évolue en s'adaptant aux temps nouveaux. En 1962, une modification majeure transforme la présidentielle. Le président est désormais élu au suffrage universel direct, renforçant personnellement sa légitimité et son rôle dans le paysage politique. En 1969, une révision réaffirme le mécanisme de l'évolution constitutionnelle. Les changements fondamentaux doivent pouvoir être soumis à référendum ou être adoptés par une instance réunissant les deux chambres. Plus tard encore, la France poursuit l'ajustement de ses équilibres. Le tournant majeur des années 2000 introduit le quinquennat. Le mandat présidentiel passe de 7 à 5 ans afin de mieux aligner les échéances présidentielles et législatives et de donner au pays une meilleure synchronisation des choix politiques. Aujourd'hui, l'absence de majorité au Palais Bourbon relance les interrogations sur le devenir de la Ve République. Une Sixième République au contour incertain se profile dans les discussions. Certains imaginent un régime présidentiel véritable où le gouvernement ne serait pas tenu devant l'Assemblée. D'autres veulent remettre en question l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct afin d'apaiser les frictions entre les diverses formes de légitimité. Les débats devraient refaire surface dans les semaines à venir.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Tu avances et je recule, je passe toujours quand tu es sorti pour me chercher au coin de la rue, dans un café où je suis plus.
C'était Mzaza avec Parallèle en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons le plaisir d'avoir Chris Cody, le musicien de jazz franco-australien. Bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Jean-Noël et merci de me recevoir.
Chris, on va parler de vos prochains concerts et une première car vous venez, d'après ce que je comprends, à Melbourne pour la toute première fois.
Oui, je c'est pas pour la toute première fois. Je suis né à Melbourne, quand je suis en Australie, j'allais souvent à Melbourne. On a déménagé à Sydney quand j'avais 12 ans, et après je suis allé vivre en Europe, en France. Mais même quand je revenais de la France pour des concerts en Australie, j'allais toujours à Melbourne. Donc, mais ça va être la première fois depuis.
Un petit moment.
Oh, tu crois. C'est-à-dire que ça fait un petit break quand même de 4-5 ans où je ne suis pas allé à Melbourne pour faire un concert. Donc j'ai hâte de redécouvrir mes amis là-bas et mon public à Melbourne.
Et donc, vous serez, d'après ce que je comprends, au Jazz Lab le 5 octobre, c'est un dimanche ?
Exact. Oui, le Jazz Lab, c'est un peu l'ancien Bennett's Lane, pour ceux qui connaissaient Bennett's Lane, ouais. Un club presque légendaire à Melbourne. Oui, c'est à 27 Leslie Street, Brunswick, dans le nord de Melbourne. Et je joue la musique que j'ai enregistrée. J'ai fait un album qui s'appelle Mountain to Sea, de la montagne à la mer. Je vais jouer cette musique-là. À Sydney, le groupe, c'est avec Sandy Evans, Lloyd Swanton et Tess Overmyer. Mais à Melbourne, c'est avec les plus grands musiciens de Melbourne. Julian Wilson, au sax ténor, Flora Carbo, avec qui je n'ai pas encore joué, au saxo alt, et Sam Anning, que je connais à la contrebasse. Donc c'est un quartet sans batteur, ce qui est intéressant avec la musique, et ça aide la musique à respirer. La musique a été conçue pour être jouée sans batterie. Normalement, dans des quartets de jazz, on va de la batterie, mais cette fois-ci, non. Et donc, dans nos concerts, on a trouvé que c'est super. Ça change subtilement notre façon de jouer, peut-être un peu plus rythmiquement, mais plus à l'écoute des autres. Donc, j'ai envie de voir comment ça va se passer avec ces super musiciens melbourniens.
Et est-ce que vous allez présenter des nouveautés également, autres que Mountain to Sea?
Oui, parce que c'est la musique. Donc, il y a une base de morceaux. C'est comme une suite, si on veut. Mais en même temps, j'ai conçu cette musique pour avoir aussi des contributions solo de chaque musicien. Et ça, c'est un moment pour le musicien de créer quelque chose spontané, improvisé, dans le moment. Et ça, c'est la nouvelle musique, en fait. Donc, ça change énormément de concert en concert. Des fois, ça peut être moi au piano, j'attaque un morceau très énergétique. D'autres fois, c'est très calme, très lyrique. Pareil avec les saxophonistes et le contrebassiste. Donc c'est très varié, en fait. C'est vraiment la musique est conçue, donc le titre, de la montagne à la mer, comme un voyage imaginaire qui traverse des paysages différents. C'était une réponse pour à ce monde assez turbulent et des fois violent dans lequel on se trouve en ce moment.
Et donc, est-ce que ce sera un seul et unique concert que vous donnez à Melbourne ?
Oui, cette fois-ci, c'est un seul concert. Des fois, oui, il y a plusieurs concerts, mais cette fois-ci, c'est juste pour un concert. En même temps, avant et après, je vais profiter pour aller voir mes amis de la famille là-bas.
Et puis, si je ne me trompe pas, je crois que vous étiez en Europe récemment. Vous aviez donné des concerts en France, c'est ça ?
Oui, j'ai joué en France. J'étais à Paris au mois de juillet. C'était super de retrouver des copains, des musiciens que je connais depuis longue date, depuis que j'ai vécu 20, comme vous savez, j'ai vécu 22 ans à Paris. Et donc j'ai réuni des musiciens avec qui je joue régulièrement. David Lewis, je pense que vous et auditeurs le connaissez par
oui.
Paris Combo et d'autres groupes encore. Donc lui joue à la trompette. Il a une grande expérience avec des musiciens africains comme Manu Dibango, Salif Keita, etc. Et puis bien sûr Paris Combo. Un saxophoniste John Handelsman aussi, qui était l'arrangeur pour Manu Dibango, qui a joué énormément dans le jazz et le monde africain à Paris. À la contrebasse, c'était Bruno Rousselet, qui a joué sur plusieurs de mes albums que j'ai produits en France. Et à la batterie, Jeff Boudreau, qui est américain, de New Orleans. Donc son nom Boudreau, qui sont très français quand même. Et lui, il a joué avec tous les frères Marsalis, tous les grands noms du jazz aux États-Unis et en Europe. Donc c'était un super concert. On a joué au centre culturel le Loup Pascalou, qui est un centre culturel dans le 20e arrondissement à Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, ça s'appelle Ménilmontant, le quartier. Et c'est un quartier très populaire avec beaucoup d'immigrés africains, arabes. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans ce quartier. J'ai joué aussi à la Cadière dans le sud de la France. Et après, je suis allé en Grèce. Où aussi, j'étais resté un peu plus, justement. Je connais des musiciens à Paros, sur l'île de Paros, ouais. Qui est à 4 heures de bateau d'Athènes, où il y a un super festival qui se passe tous les ans. Je vais lui faire un peu de publicité dans les arènes grecques anciennes, et c'est magnifique, le cadre avec la mer derrière, le coucher de soleil. Donc je compte y aller l'année prochaine pour y jouer à Paros, le festival de jazz de Paros. Et c'était super d'être en Europe, retrouver ses copains, ses musiciens, la vie européenne, en même temps d'être près de la Méditerranée, c'est une vie qui me plaît énormément et qui me plaira toujours, je crois.
J'imagine que vous avez beaucoup de projets en chantier, d'autres concerts, de nouveaux albums à venir.
Oui, ça continue. Heureusement, la vie continue. Malgré, il y a des moments que des fois on se demande, mais qu'est-ce que se passe avec ce monde? C'est pas possible. Il y a des hauts et des bas, mais pour moi, ça fait partie de mon identité. Donc, je suis toujours en train de travailler le piano, créer des compositions. Pour l'instant, je sais pas exactement le prochain album. Qu'est-ce que ça va être? Peut-être un nouveau album avec Charlie Tate, le duo piano électronique. Peut-être encore en quartet, je sais pas encore, mais je commence à réunir mes idées et composer des choses. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est sûr, oui, normalement, l'année prochaine, oui, il y aura une nouveauté à annoncer.
Toujours un plaisir de vous avoir sur SBS French, Chris Cody.
C'est toujours un plaisir pour moi aussi de parler avec toi, et j'espère que tu peux venir, Jean-Noël, au concert.
Absolument.
Au Jazz Lab, parce que ça me ferait énormément plaisir, et pour vos auditeurs aussi, venez au Jazz Lab le 5 octobre, ça serait super. Je vous dirai bonjour, je viendrai avec des albums aussi pour ceux qui veulent découvrir un peu plus la musique que j'ai décrite.
Absolument. Merci à vous et à très bientôt.
Oui, merci. À bientôt. Au revoir.
Chris Cody, qui sera donc en concert au Jazz Lab ce dimanche, c'est à Melbourne. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je suis en ligne avec le cinéaste français Julien Rapneau. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, votre film Rosalie Bloom était le festival du film français ici. Pour nos auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, racontez-nous un peu l'histoire du film.
L'histoire se déroule dans une petite ville de province française dans laquelle Vincent est un trentenaire qui a une petite vie un peu routinière. Il a un salon de coiffure, il vit avec une mère un peu possessive et fofolle. Et un jour, ce jeune garçon croise à l'autre bout de la ville, dans une boutique où il n'a jamais été, une épicière qu'il est persuadé d'avoir déjà vue. Elle lui dit que non. Et à partir de là, il va commencer à vouloir suivre cette femme pour essayer d'en savoir un peu plus et essayer de retrouver où il a pu la voir. Et en faisant ceci, sa vie et la vie de plusieurs personnages va changer. C'est le point de départ, parce qu'évidemment après il ne faut pas raconter tout ce qui va se passer. C'est un film qui mêle à la fois comédie et émotion.
Cette histoire, elle est inspirée d'une bande dessinée.
Oui, c'est un roman graphique d'une jeune femme qui s'appelle Camille Jourdi, qui est une bande dessinée extrêmement réussie, que j'avais lu il y a quelques années et dont je suis tombé amoureux et j'ai voulu l'adapter pour le cinéma. Voilà, qui est une bande dessinée publiée en 3 volumes chez Actes Sud en France.
Vous êtes un scénariste d'expérience, vous avez scénarisé une dizaine de films, mais c'est le premier film que vous réalisez. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de réaliser?
Je suis vraiment tombé amoureux de cette histoire. J'avais très envie depuis quelques années de travailler avec des comédiens aussi, parce que quand vous voilà, le métier de scénariste est un métier passionnant mais très solitaire. Vous êtes souvent seul dans votre coin à imaginer une histoire, à écrire des scènes, et j'avais envie de me confronter aux acteurs, mais j'attendais vraiment d'avoir le bon sujet, quelque chose qui soit proche de ma sensibilité et de ce que j'aime. Et cette histoire-là, j'avais pas l'impression de l'avoir déjà vue au cinéma. Il y a quelque chose d'assez original dans Rosalie Bloom, dans cette bande dessinée, et ces personnages me touchaient. J'y ai vu la possibilité de faire un film qui mêlait à la fois, comme je disais tout à l'heure, de la comédie, de l'émotion, du suspense. Et voilà, il me fallait le déclic pour me lancer dans l'aventure, parce que moi j'avais jamais tourné de ma vie, donc ça me faisait peur évidemment. Mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans cette aventure. Quand vous écrivez un scénario et que vous pensez à des scènes, d'une certaine manière, vous les imaginez dans votre tête. Il y a une sorte de pré-mise en scène qui se fait. Vous imaginez un peu le décor, les déplacements des personnages, la façon dont le rythme dans lequel ils vont jouer. Et donc, il y a presque un prolongement naturel, pas obligatoire. Il y a un peu un prolongement à essayer d'aller voir de l'autre côté comment ça se passe, en mettant réellement en scène le film et en s'entourant d'une équipe, évidemment.
Justement, bon, vous disiez scénariser, réaliser, c'est très différent. Comment ça s'est passé, le tournage de Rosalie Bloom?
Ça s'est très bien passé. J'avais pris soin de m'entourer de gens que j'admirais et d'une équipe proche de moi, les techniciens, chef opérateur, décorateur, script, monteur, toute l'équipe. Et puis en travaillant avec des comédiens dont j'appréciais beaucoup le travail et que j'ai eu la chance de convaincre de me suivre dans l'aventure. Et donc on a passé plusieurs semaines dans une ville française qui s'appelle Nevers, et ça s'est très bien passé. Comme le film raconte notamment la façon dont se recrée du lien entre les gens, et comment c'est vraiment un film qui touche beaucoup au rapport humain. Il fallait qu'entre nous tous ça se passe bien, notamment entre les comédiens, et ça a été le cas. Il y avait vraiment une ambiance très chaleureuse, je dirais, sur le tournage. Studieuse, parce que c'est beaucoup de travail, un film, mais chaleureuse.
Maintenant que vous avez touché à la réalisation, est-ce que vous avez envie de répéter l'expérience?
Oui, j'y ai pris goût. Après, j'attends vraiment de trouver à nouveau le déclic, l'idée, ou le roman, ce qui va vraiment me donner envie d'y retourner. Il y a des choses qui me trottent actuellement dans la tête. Mais j'ai envie de continuer à la fois mon métier de scénariste, y compris pour d'autres, mais de réaliser à nouveau. Oui, il y a quelque chose de très excitant de faire quelque chose de A à Z. Il y a comme un travail un peu d'artisan, en fait. Vous partez de la feuille blanche. Bon, c'était une adaptation, mais enfin, au début, il faut tout bâtir et puis vous le menez jusqu'au terme. Parce qu'évidemment, après le tournage, vous avez toutes les phases de post-production et on fignole vraiment les choses scène par scène. Et ce travail-là, même s'il est très long, parce que ça prend plusieurs années de votre vie, un film, j'ai trouvé ça particulièrement excitant, et donc j'ai envie d'y retourner.
Parce que Rosalie Bloom, vous avez scénarisé et réalisé, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. J'ai scénarisé et réalisé. C'est mon frère Martin qui a fait la musique du film, avec qui j'étais très très heureux de travailler.
Toute votre famille, vous baignez beaucoup dans le cinéma. Bon, votre frère qui compose des musiques de films, votre père qui est le réalisateur Jean-Paul Rapneau. Souvent, les enfants se rebellent, veulent pas faire comme leurs parents, mais vous, ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été directement le cinéma pour moi. Moi, j'ai effectivement grandi dans une famille de cinéma, parce que mon père Jean-Paul est donc réalisateur. Ma tante, sa sœur Elisabeth est réalisatrice aussi. Elle a fait beaucoup de téléfilms ici en France. Et moi, mon père, il m'a toujours dit « Oh là là, fais pas de cinéma, c'est très difficile, c'est un métier vraiment compliqué. » Et je voyais, même s'il a eu une très belle carrière, que c'était effectivement compliqué. Donc, au début, je me suis pas du tout dit que j'allais faire le même métier que mon père, à la fois pour des raisons personnelles et aussi parce que, voilà, j'avais d'autres envies, d'autres aspirations. Donc, j'ai fait des études, je suis devenu journaliste, j'ai travaillé un temps... en presse et en radio d'ailleurs, et puis le cinéma m'a rattrapé en fait, hasard, qu'on n'est probablement pas un. Mon père, quand il s'est mis à travailler sur le scénario d'un film qu'il a fait au début des années 2000 qui s'appelle Bon Voyage avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, il me parlait de cette histoire, et plus il m'en parlait, plus je rebondissais en disant mais pourquoi là le personnage ceci, pourquoi tel personnage là, pourquoi, et du coup on s'est mis à l'écrire ensemble, d'abord en parallèle de mon métier, puis ensuite totalement, et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais toujours eu, au fond de moi, l'envie de raconter des histoires, et j'ai essayé de devenir scénariste, que j'ai eu la chance de réussir à faire, et voilà. Et puis plus tard, cette année, la mise en scène. Mais c'était pas, je me suis pas dit à... Même si j'ai toujours adoré le cinéma et qu'on a baigné là-dedans, mon frère et moi, je me suis pas tout de suite dit, je vais être cinéaste, je vais faire le même métier que mon père. Je suis passé par une autre vie professionnelle avant.
Vous mentionnez avoir travaillé avec votre père sur Bon Voyage. Est-ce que vous avez travaillé ensemble après ça ou c'est la seule fois que vous avez travaillé ensemble?
Non, on a retravaillé. Alors après Bon Voyage, on a écrit assez longtemps un film qui malheureusement ne s'est pas fait. J'ai travaillé avec lui sur son dernier film qui s'appelle Belle Famille, qui est sorti l'année dernière, en 2015, ici en France. J'ai travaillé au scénario avec lui. En fait, j'ai jamais cessé de travailler en fait avec lui. J'ai travaillé sur beaucoup d'autres films et avec d'autres cinéastes, mais le dialogue avec mon père ne s'est pas interrompu après Bon Voyage. Ça m'a permis de découvrir. On était déjà proches, mais ça nous a encore davantage rapprochés. Et puis évidemment, à son contact, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a quand même des. Évidemment, il a une grande expérience et donc c'était très très enrichissant, évidemment.
C'est intéressant de pouvoir travailler avec votre père, travailler avec votre frère également sur la musique.
Avec Martin, en fait, on s'était jamais dit. Alors justement, le film dont je vous parlais, Belle Famille, qui a réalisé mon père l'année dernière, Martin a fait la musique, et jamais de toute notre vie, mais ça je vous le promets, on s'était dit qu'un jour on serait tous les trois au générique d'un même film, Martin à la musique, mon père au scénario et à la mise en scène, et moi qui ai collaboré au scénario. C'est une histoire de famille assez drôle, en fait, parce que ça s'est fait sans projet, en fait. C'est venu assez naturellement, en fait. Et pareil, quand moi je me suis lancé dans Rosalie Bloom, moi j'ai toujours beaucoup aimé les compositions de mon frère Martin, qui a aussi été chanteur, qui a fait des albums de chansons françaises très réussis, puis qui depuis quelques années fait des musiques de films, et je lui ai proposé. C'était pas une obligation, parce que ça me faisait assez peur d'ailleurs, parce que si je n'avais pas aimé la musique de mon frère, celle qu'il me proposait pour mon film, je me suis dit oh là là, mais la famille va voler en éclats, on va se disputer, comment le lui dire, comment éventuellement me séparer de lui, parce qu'il arrive que des cinéastes se séparent du compositeur. Et puis ça s'est très bien passé. La première séance de travail, une fois qu'il m'a proposé les premières musiques, était un peu, on était tous les deux un peu sur la défensive. Moi, j'étais pas totalement convaincu au début. Lui, il me sentait stressé. Puis finalement, à un moment, il m'a fait écouter un air qui m'a emballé. Et à partir de là, ça s'est déclenché et on a travaillé en parfaite harmonie.
Et Julien, sur quoi vous travaillez en ce moment? Quels sont vos prochains projets?
Alors, je suis en train de réfléchir à un prochain film pour moi, avec des idées qui me tournent un peu en tête, mais là, c'est un peu tôt pour en parler. Et puis, je travaille sur le scénario d'un film, sur l'histoire vraie d'un escroc qui a eu une vie assez rocambolesque et qui est parti de rien et qui a fait des grandes escroqueries financières et qui a eu une vie dans plusieurs pays. Et voilà, quelqu'un que j'ai rencontré, interrogé, et je suis en train de travailler un scénario autour de cette histoire-là.
Merci beaucoup, Julien.
Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'est extrêmement émouvant pour moi d'imaginer que des spectateurs du bout du monde vont découvrir le film, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'espère que le public australien prendra plaisir à découvrir cette histoire pleine de surprises et, j'espère, de charme.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Même après, je t'aimerai. Vous la connaissez, cette chanson. C'est Oshi en ce samedi sur Radio SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, nous inaugurons une mini-série à l'intérieur de cette série sur les premiers ministres les plus marquants de l'histoire d'Australie. Et on va commencer par l'un des artisans du rassemblement de toutes les colonies d'Australie en une fédération. Je parle d'Alfred Deakin. Il n'est pas le tout premier Premier ministre, il a été le deuxième à avoir gouverné l'Australie, c'était donc au tout début du XXe siècle. Et pour cette série sur les premiers ministres, comme sur tous les autres épisodes que nous traitons dans cette série, on va voir tout ça en détail avec l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors Romain, Alfred Deakin, il s'est lancé assez tôt en politique dans son état natal, l'état du Victoria, mais dans le civil, si j'ose dire, il a également été avocat. Et un détail de sa biographie qui m'a un petit peu interpellé, c'est que parmi les clients qu'il a eu en tant qu'avocat, il a défendu un tueur en série qui s'appelle Frederick Bailey Deeming. C'est qui ce monsieur et comment il s'est retrouvé à le défendre?
Alors déjà, je vais un peu reprendre. Vous nous avez dit que Deakin était le second Premier ministre australien, et je sais que si moi j'entendais ça à la radio, je demanderais mais qui était le premier? Donc on va vous le dire, chers auditeurs, c'était Edmund Barton, B-A-R-T-O-N, qui était Premier ministre pendant à peu près 2 ans et demi. Et pourquoi on a choisi de commencer cette série avec Alfred Deakin, le numéro 2, le Premier ministre qui vient en second? C'est parce qu'il a une carrière assez remarquable, il a été Premier ministre à plusieurs reprises, et surtout, il a été très important dans la construction de l'Australie moderne que l'on connaît. Et pour reprendre le fil de cette histoire, vous avez rappelé sa double carrière en tant qu'avocat et homme politique. On va commencer par le début pour le situer, en fait, parce que là, on remonte dans le temps. Alfred Deakin, il est né en août 1856, donc il y a un petit moment, dans les faubourgs de Melbourne, d'un père et d'une mère de, on va dire, le bas de la classe moyenne, quoi, ou classe moyenne aspirante, parce que le père de Deakin, en l'occurrence, c'est un migrant britannique, et sa maman également. Ils vont d'abord s'installer en Australie méridionale, vers Adélaïde. Et puis, en fait, au moment de la ruée vers l'or dans le Victoria, ils déménagent dans le Victoria, vers Melbourne. Et le père est transporteur de biens, d'objets, de personnes, un peu. Et puis, en fait, ils s'investissent dans l'éducation de leur fils. Donc, le petit Alfred Deakin, il commence à étudier à la Melbourne Grammar School, qui est toujours une très bonne école dans le Victoria. Et puis après, il bénéficie d'une éducation à l'université de Melbourne et devient avocat à l'âge de ses 20 ans à peu près. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce type d'éducation. À l'époque, l'université est réservée à une petite élite. Et troisième point, c'est un garçon très doué. C'est un garçon très doué et il est admis au barreau en 1877, donc il a, oui, 21 ans. Et à l'époque, il est déjà un peu touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il combine le travail juridique avec le journalisme. Et donc, un des cas effectivement célèbres du jeune avocat Deakin, c'est la défense de Frederick Bailey Deeming, qui est en fait un tueur en série, si vous voulez. Certains ont pensé que derrière Deeming se cachait Jack the Ripper. Enfin, ça n'a jamais été prouvé.
Jack l'Éventreur.
Je me souviens plus. Jack l'Éventreur, merci, en français. Ça n'a jamais été prouvé, mais enfin, du coup, ça avait apporté une certaine lumière. Enfin, ça avait été un peu sous les spotlights médiatiques à l'époque. Et donc, il était chargé de la défense de cette personne qui était assez difficilement défendable du fait des preuves accablantes, parce qu'en fait, il avait commis des meurtres à la fois en Angleterre et puis en arrivant en Australie. Donc, le procès a tourné court, hein, parce qu'en fait, il a été exécuté assez rapidement. Ce qui avait aussi retenu l'attention à l'époque, parce que normalement, à cette époque-là, avant d'exécuter quelqu'un, on prend quand même son temps dans le cadre de l'Empire britannique. Donc voilà, Deakin s'est aussi un peu fait connaître en tant que jeune avocat dynamique dans une affaire vraiment sensationnelle, au sens propre du terme.
Ouais. Et d'ailleurs, de nombreux autres avocats ont fini par rentrer en politique après cette saisie d'affaires qu'ils n'ont pas forcément gagnées, mais qu'ils ont pour lesquelles, en tout cas, ils ont plaidé et ils ont été exposés médiatiquement. Revenons donc maintenant sur le côté politique de ce personnage, Alfred Deakin. Il grandit donc dans une Australie qui est encore divisée en plusieurs colonies. Et lui, personnellement, il s'engage assez tôt en faveur du mouvement fédéraliste. Il va même, quelques années avant que l'Australie devienne une fédération, un pays uni, il a contribué à la rédaction d'un document qui, plus tard, qui explique en gros comment fonctionneraient les différentes colonies rassemblées au sein d'une même fédération, et qui, une fois que celle-ci sera instaurée en 1901, en fait, la Constitution reprend dans les très grandes lignes ce document.
Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi on a choisi donc le second Premier ministre? C'est justement parce qu'en fait, en parlant d'Alfred Deakin, on parle de la transition de colonie australienne en la fédération australienne que l'on connaît aujourd'hui. Avant d'avoir cette structure fédérée de 1901, vous avez une petite galaxie de colonies au bout du monde qui sont en lien avec Londres. Et si vous voulez, les parlements locaux ont certains droits, mais ça demeure des petites colonies assez isolées et beaucoup de décisions sont prises à Londres. Donc, plutôt que d'avoir une colonie du Queensland, du Victoria, d'Australie occidentale, d'Australie méridionale, de Tasmanie, dans la seconde moitié du 19e siècle, les Australiens qui sont maintenant troisième, quatrième génération d'Australiens se disent, en fait, ce serait peut-être bien que nous nous fédérions et que nous demeurions partie intégrante de l'Empire britannique, mais que nous ayons plus d'autonomie sur le contrôle des frontières, sur la gestion du commerce, en fait, sur nos décisions de la vie de tous les jours. Et ça, c'est un mouvement qui prend du temps, hein. Ça mûrit en 20, 30, 40 ans, ça prend beaucoup de temps à être établi, et Deakin est un personnage central dans cette histoire. Et pour bien comprendre les choses, si vous voulez, si vous êtes, je sais pas moi, la colonie du Queensland, et que vous avez besoin d'ouvriers pour la culture, vous allez importer des migrants. Mais de l'autre côté du pays, vous avez le Victoria qui est en crise économique et qui refuse l'arrivée de migrants. Bon, alors vous pouvez fermer vos frontières de Victoria, mais une fois qu'ils débarquent dans le Queensland, rien ne les empêche de descendre à pied, quoi, si vous voulez, enfin, autrement. Et donc, se pose le problème de loi fédérale, c'est-à-dire comment on gère l'immigration, comment on gère le commerce, comment on gère la défense. Et donc, très tôt, une des solutions, c'est donc de s'unir et que chaque citoyen australien, anciennement dans différentes colonies, que ces colonies deviennent des États, États eux-mêmes compris dans un État fédéral qui regrouperait tous les Australiens. Et donc, Deakin est un militant central du fédéralisme. Il est délégué aux conventions constitutionnelles des années 1890, membre du comité constitutionnel. Il a contribué au projet de constitution soumis au référendum, hein, qui a été donc adopté et entré en vigueur en 1901. Et puis, en fait, en parallèle de son travail au niveau, enfin, ce qu'on appellera national plus tard, il est cheville ouvrière dans le Victoria pour mener campagne, pour persuader les habitants du Victoria que rejoindre une fédération serait plus intéressant que d'être une simple colonie britannique. Et donc, c'est le plus jeune délégué de la Convention de 1891, et puis c'est un acteur majeur de la Convention constitutionnelle de 97-98. Comme j'ai dit, il est membre du comité de rédaction, et il participe très tôt à l'élaboration du projet de constitution. Donc, si vous voulez, quand on pense à l'Australie d'aujourd'hui, et toutes les institutions, et on va y revenir, elle porte la marque d'Alfred Deakin et de nombreux autres pères fondateurs, entre guillemets, mais celle de Deakin est très importante parce que voilà, il fait partie, comme j'ai dit, de ce comité constitutionnel qui devient la Commonwealth Constitution Bill.
Ce qui est étonnant dans ce combat qu'il mène pour le fédéralisme, c'est que derrière le fédéralisme, en fait, il y a aussi le souhait de s'émanciper un petit peu de l'Empire britannique, c'est ce que vous expliquez. Et pourtant, lui, comme d'ailleurs la plupart de ses contemporains en Australie, il souhaite rester étroitement lié avec Londres, avec l'Angleterre, avec l'Empire.
Alors, ça peut nous paraître paradoxal. En fait, ce qui est compliqué quand on se penche sur la fin du 19e siècle, c'est que les paramètres sont totalement différents. Par exemple, la droite est pour l'immigration et la gauche est contre l'immigration. Parce que la gauche, à l'époque, veut protéger le travailleur australien. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui sont assez inversés et donc on ne peut pas nécessairement penser en termes de gauche-droite et on va y revenir. Mais pour le cas aujourd'hui, enfin surtout en tant que Français, on pense voilà, un pays est autonome et souverain. À l'époque, c'est pas la question en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être un habitant du Victoria loyal au Victoria, loyal au futur État australien, le Commonwealth, et puis loyal à l'Empire. Et en fait, tout ça fonctionne en vase clos parce qu'on est encore à l'époque du commerce intra-impérial, où le développement de l'Empire passe par le développement de ses colonies à l'exclusion d'autres empires et de d'autres sphères d'influence. Et donc, de toute façon, à cette époque-là, l'Australie ne peut pas vivre seule. Elle a encore besoin des capitaux étrangers, elle a encore besoin de ce commerce d'export, hein, c'est-à-dire que ce soit l'or, que ce soit le blé, que ce soit la laine de mouton. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un pays qui est encore sous perfusion économique. Et donc, ça n'empêche pas de se fédérer pour avoir quand même un peu plus de poids au sein de l'Empire. C'est plus facile d'être une nouvelle nation que d'être une série de petites colonies, si vous voulez. Vous avez une force de frappe, entre guillemets, plus importante. Donc, en fait, faut pas penser que, voilà, avec la fédération des colonies australiennes en 1901, il y a indépendance de l'Empire britannique. Pas du tout, absolument pas. En fait, quasiment le contraire. On renforce l'Empire en se renforçant soi-même. Et donc, preuve de son impérialisme, c'est un partisan de la fédération impériale. Il se déplace à plusieurs reprises pour prendre part à des conférences impériales en représentant l'Australie à Londres. Et puis, c'est un délégué majeur de la conférence impériale de 1907. C'est-à-dire que non seulement c'est un homme politique dans le Victoria, c'est un homme politique important pour la nouvelle Australie, mais c'est un homme politique important au sein de l'Empire britannique. Et un de ces sujets, de ces fers de lance principaux, c'est la préférence commerciale. C'est-à-dire que on est dans un monde d'avant libre-échange. Alors on commence à y arriver, Et vous avez des nouveaux hommes politiques qui prônent le libre-échange. Et puis vous en avez d'autres comme Deakin qui sont des protectionnistes et qui eux veulent des barrières douanières très fortes comme Donald Trump aujourd'hui. Donc c'est une politique passéiste, hein, celle de Donald Trump par rapport à là où nous en sommes. À l'époque, en revanche, il est communément accepté qu'avoir des droits de douane protège l'industrie nationale. Or, ça a été prouvé depuis par de nombreux économistes que c'est une bêtise à plein d'égards. Mais ce que je veux dire là, c'est que ce qui est important pour Deakin, c'est de protéger l'Australie, mais de la protéger au sein de l'Empire, et par cette protection, arriver à ce que à la fois l'Empire et l'Australie bénéficient d'un commerce renforcé entre les deux.
Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui concernant l'un de ses tout premiers premiers ministres australiens, Alfred Deakin. Dans un prochain épisode à paraître d'ici quelques jours, on s'intéressera plus spécifiquement à la partie de sa vie durant laquelle il a été au pouvoir, d'abord en tant que membre du gouvernement et puis très vite en tant que premier ministre. On se retrouve donc d'ici quelques jours et d'ici là, je vous souhaite de très bons moments. À bientôt.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu
Slimane, mon amour, Slimane qui avait représenté la France à l'Eurovision en 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.